Bonheur, don et conquête. Nous aspirons tous au bonheur, sous une forme ou sous une autre. Nous aimerions faire le bonheur de ceux qui nous sont chers. Nous voudrions parfois que les autres nous rendent heureux. Pourtant, la vie nous apprend que personne ne peut faire le bonheur d'un autre. C'est souvent à l'occasion d'un échec dans la relation que nous sommes confrontés à cette réalité. Certes, il dépend de nous d'offrir tout ce qui, d'après nous, serait susceptible d'aider notre enfant, notre conjoint, tel ami souffrant, à expérimenter un peu de bonheur. Cependant, la façon dont notre amour est accueilli nous échappe complètement. Nous sommes responsables de l'émission, mais non maîtres de la réception du message d'amitié ou d'amour que nous exprimons. Vivre la gratuité. Cette constatation entraîne plusieurs conséquences. Tout d'abord, un amour authentique est invité à une profonde gratuité. Nous sommes souvent tentés d'évaluer les effets de notre bienveillance sur les autres. Nous aimerions des résultats. Après tout ce que j'ai sacrifié pour ton bonheur, s'exclament les parents, désespérés devant un enfant qui semble tourner mal. Certes, c'est une réaction naturelle. En effet, ne rêvons pas des totales gratuités. C'est François Varillon qui disait que Dieu est le seul être qui ne connaît aucun retour sur lui-même. Pourtant, nous pouvons apprendre à grandir en gratuité, mais c'est un long chemin de démaîtrise. Il demande que nous apprenions à aimer l'autre pour lui-même, dans un profond respect de sa personnalité et de sa liberté. Ensuite, si personne ne peut faire notre bonheur, dans quelle mesure celui-ci dépend-il de nous? Ici, la réponse est singulière, car beaucoup d'éléments entrent en ligne de compte et chacun de nous est unique. Il y a tout d'abord notre tempérament ou notre caractère. Certaines personnes cultivent plus spontanément que d'autres l'art d'accueillir les bienfaits de la vie et de s'en réjouir. Il y a aussi notre parcours personnel et notre éducation. Certains ont tellement étaient culpabilisés par une morale mal comprise ou blessés par la vie qu'ils n'arrivent plus à faire confiance et à se laisser aimer. Pourtant, une question reste posée. Qu'as-tu fait de ce qu'on t'a fait? Demande Simon Paco. Nous pouvons être tentés de nous installer dans un état de victime. Il y a aussi les conditions de vie que nous connaissons actuellement. Il n'est pas possible de goûter le bonheur quand on vit une situation infra-humaine. Il ne faudrait pas idéaliser les sourires de nos frères et de nos sœurs de l'hémisphère du Sud. Il est parfois l'expression pudique d'une dignité qui cache des drames, des survies. Choisis la vie. Or, il nous faut bien entendre les conseils du renard au petit prince au moment de la séparation. Tâche d'être heureux. Ou l'invitation forte de l'Écriture sainte. Choisis la vie. Livre des Deutéronomes 30, 15 à 20. Une tâche, un choix, donc une attitude qui dépend de notre liberté, de notre volonté, de vivre ce que nous est échu, même si nous souffrons de tel handicap ou de telle fragilité. La société occidentale fait dépendre notre bonheur des conditions si nombreuses qu'il devient impossible que tout soit rempli, car elle met la barre très haute en termes de santé, de confort, des réalisations personnelles. Nous sommes passés du droit aux soins au droit à la santé. Puis, nous imposons aux soignants non seulement l'obligation des moyens, mais aussi celle des résultats. En outre, l'équation entre bonheur et santé, celle-ci prise dans son sens holistique, c'est-à-dire intégral, implique toutes les dimensions de l'existence. Non seulement notre biologie, mais notre équilibre psychique, nos relations, notre activité professionnelle, notre environnement, notre vie spirituelle. L'obligation d'excellence et du zéro défaut encourage des attitudes de toute puissance et de narcissisme qui risquent de rendre le bonheur impossible. En effet, le bonheur ne commence-t-il pas quand nous acceptons de renoncer à tout maîtriser, quand nous consentons à la réalité et à ses limites, en abandonnant toute boulimie? N'est-ce pas d'abord un art de goûter les choses de l'intérieur et de saisir dans la banalité du quotidien tout ce qui est expression de la gratuité de Dieu et de la bienveillance humaine? Que serions-nous sans cette bienveillance dont nous dépendons à chaque instant dans nos relations sociales? Laisse-toi aimer. Nous associons souvent le bonheur à l'amour, mais nous prenons du temps à découvrir que le plus laborieux et le plus essentiel pour notre bonheur est moins d'aimer que de se laisser aimer. Déjà, aimer n'est pas facile, surtout en ce qui concerne notre entourage immédiat et quotidien. Pourtant, se laisser aimer est encore plus difficile. Cela ne signifie pas chercher à tout prix à être aimé, exiger en permanence de se sentir aimé. Se laisser aimer, c'est accueillir avec gratitude tous les signes de bienveillance qui nous viennent des autres, de la vie, de la nature, de notre Dieu. Nous abandonner à l'amour qui est donné, le reconnaître dans le bien qui nous est offert, consentir avec gratitude à tout ce qui est expression d'estime, de reconnaissance, d'affection. À force de combattre nos tendances égoïstes, nous risquons d'occulter une dimension essentielle à notre identité, à notre croissance, l'estime de soi. Les psalmistes ne s'écrit-il pas « Prodige que je suis, que sont tes œuvres ?» Psaume 135. Si seulement nous accueillons avec émerveillement ce qui est déjà donné, nous serions moins tentés de conquérir des hautes luttes ce que souvent ne nous est prodigué que quand nous cessons de nous acharner. Si nous acceptions de reconnaître que, au-delà de toutes les images négatives de nous-mêmes qui nous envahissent parfois, nous sommes un cadeau pour nous-mêmes et pour les autres, nous pourrions accueillir le bonheur promis dans les béatitudes. Cela n'empêche qu'il existe aussi un profond bonheur à donner de la vie et de l'amour aux autres. Choisir la vie, c'est aussi choisir de donner la vie de la vie en cessant de se mettre au centre de l'univers. Il y a souvent plus de joie à donner qu'à recevoir. Les bien-aimés de Dieu. Nous sommes ces bien-aimés à l'instar du Christ lui-même. Or, nous vivons comme si, depuis notre enfance, on nous avait inculqué que nous ne sommes aimables, que dans la mesure où nous corrigeons tel défaut, nous rendons tel service, nous répondons à telle demande. Et nous voilà essayant de nous adapter aux attentes supposées de notre entourage, au point de confondre sainteté et perfection, et au risque de plus oser exister tel que nous sommes réellement, au point de douter de la possibilité même d'être aimé de Dieu, quels que soient nos échecs ou notre péché. S'il faut parler de conquête, ce n'est certes pas en termes de mérite à acquérir, mais en termes de victoire sur nos doutes quant à notre vocation au bonheur. Alors laissons-nous aimer, et nous nous laisserons toucher par le bonheur, qui est un don gratuit offert par surcroît. Bonheur et foi, même combat. Voici une bien curieuse association. La foi et le bonheur iraient-ils ensemble? La foi a pour but de faire naître en nous et développer la sainteté. Avouons-le simplement, la sainteté qui marque une certaine réussite de la foi n'a pas à nos yeux la réputation d'être tellement joyeuse. Nous l'associons plutôt à l'austérité, voire aux pénitences et à la mortification, en tout cas au sérieux et à la performance dans les vertus. Tout cela n'a pas grand-chose à voir avec le bonheur, pensons-nous. De quelles idées fausses? Si nous nous faisons une idée trop sommaire et donc fausse de la foi et de la sainteté, il est aussi vrai que nos idées sur le bonheur sont également sommaires et donc bien souvent erronées. L'une des erreurs les plus fréquentes est de confondre le bonheur avec la jouissance ou le plaisir, avec la satiété ou l'opulence, avec la force ou la santé. Loin de nous l'idée de nier la valeur des biens que je viens d'énumérer. L'erreur n'est pas de les apprécier, l'erreur est de croire qu'à eux seuls ils suffisent à définir le bonheur. L'erreur est aussi de croire qu'ils sont absolument nécessaires au bonheur, puisque, à nos yeux, ils en constituent l'essence. Une autre erreur sur le bonheur, due au fait que nous ne réfléchissons pas suffisamment, consiste à appeler bonheur exactement ce que nous n'avons pas. Si nous sommes pauvres, nous pensons que les riches sont heureux. Si nous sommes malades, nous pensons que les gens en bonne santé sont heureux. Si nous sommes plutôt fixés à domicile, nous pensons que ceux qui voyagent sont heureux. Comment se fait-il alors qu'un riche, suroccupé à gérer son bien, soucieux de ne pas se faire exploiter, ni voler, ni gruger, ni tromper, pense quelquefois, ah, si les pauvres connaissaient leur bonheur. Comment se fait-il qu'un voyageur de commerce ou un homme d'affaires aspire tellement au jour où il n'aura plus à se déplacer, à manger au restaurant, à descendre à l'hôtel? Combien de célibataires pensent que le bonheur est dans les mariages, alors que tant de gens mariés pensent que le bonheur est dans les célibats? Comment tant de couples sans enfants pensent que le bonheur est de devenir père et mère, alors que nous connaissons tous des parents qui se surprennent à souhaiter n'en avoir jamais eu? Comment se fait-il que bien des malades ou des handicapés aient su redevenir heureux et donner de leur joie à des gens en pleine santé? En réalité, les gens que je viens d'évoquer, trop rapidement c'est vrai, commettent une erreur de perspective que nous reproduisons tous, souvent. Nous pensons naïvement que le bonheur est dans les choses extérieures à nous, qu'il s'agisse de biens ou d'activités. Alors que le bonheur est avant tout une question de disposition intérieure. Le bonheur a sa source dans le cœur des hommes et des femmes que nous sommes, alors que nous pensons souvent que le cœur n'en est que le réceptacle. Le bonheur est d'abord une question de vie intérieure. Il n'est que de penser à cette espèce de maladie terrible qui s'appelle la jalousie. Je l'appelle maladie parce que celui qui l'éprouve, hélas, n'y peut pas grand-chose bien souvent. Cette personne est plongée dans le malheur indéfini. Dès qu'elle a obtenu ce qu'elle a envié chez tel autre, elle se prend à jalouser une autre personne qui possède quelque chose qu'elle n'en a pas encore. Lorsqu'elle se surprend à jalouser chez autrui quelque chose dont elle est sûre de ne jamais pouvoir obtenir, alors ses sentiments peuvent aller jusqu'à la pousser à tout faire pour que l'autre ne puisse plus jouir de ce dont elle se sent frustrée. Nous savons depuis Caïn et Abel que cela peut aller jusqu'au désir de meurtre. Il s'agit d'une nouvelle erreur de perspective. L'erreur fatale, ici, est de construire en soi une idée de bonheur faite essentiellement des comparaisons avec les autres. C'est encore l'extérieur à soi, les autres, qui est pris comme critère de bonheur, alors que, redisons-le, le bonheur est d'abord une affaire de vie intérieure. Le bonheur ne peut être qu'au-dedans de chacun de nous. Il n'est pas d'abord une affaire de plaisir ou de jouissance ou d'opulence, mais bien une affaire de paix intérieure. Être en paix avec soi-même est la condition première du bonheur. D'où la nécessité de prendre conscience de ce qui se passe au-dedans de nous. Voici la toute première démarche de la vie intérieure. Je prends ici l'expression « vie intérieure » en son sens le plus simple, valable pour chacun, quelle que soit sa religion, valable aussi pour celui qui n'aurait aucune religion. Alors seulement, celui qui sait percevoir les mouvements de sa vie intérieure est capable de savoir s'il est en paix avec lui-même. S'il n'est pas en paix, qu'il sache que cette paix intérieure peut se conquérir. La preuve pour lui qu'il l'aura gagnée constitue un véritable paradoxe. Il découvrira en effet que cette paix qu'il croit avoir conquise est en fait un don qui lui est fait, mais qu'il n'aurait pas su recevoir et reconnaître s'il n'avait osé tous ses efforts de conquête. Pas de victoire sans le don, pas de don sans la conquête. Les ennemis de cette paix sont nombreux en nous. C'est précisément contre eux qu'il faut batailler. Le plus grand de tous, et qui entraîne tous les autres, c'est la peur que nous avons de la vie intérieure elle-même. Si nous lui cédons, cette peur nous entraîne hors de nous-mêmes, car nous cherchons en permanence à nous fuir nous-mêmes. Notre inconscient est très fort pour nous entraîner dans cette débandade. Nous sommes alors jetés contre tous les écueils que nous avons mentionnés plus haut. Et la foi? C'est ici qu'intervient la foi. Comment un chrétien céderait-il à la peur de la vie intérieure, alors qu'il sait que Dieu vit au plus intime de son intime? S'il recherche la paix avec lui-même, il sait qu'il ne la trouvera qu'à la faveur de la paix qu'il entretiendra avec Dieu. Déjà, toute son énergie s'oriente vers Dieu. Pourtant, Dieu est bien lointain, souvent abstrait. Le chrétien croit que Dieu a pris visage d'homme en Jésus. Cet homme Jésus est bien plus abordable. Il nous a dit qu'il vivrait mystérieusement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est donc ce Jésus, Dieu qui s'est fait compagnon de la route des hommes, c'est lui que le chrétien recherchera au-dedans de lui-même. Or, l'expression qui revenait toujours sur les lèvres de Jésus, lorsqu'après sa résurrection il venait à la rencontre de ses disciples, n'était autre que celui-ci, « La paix soit avec vous ». Lorsque le chrétien tournera son regard vers les autres, il découvrira avec surprise que ses yeux sont devenus capables désormais du regard de Dieu, du regard de Jésus-Christ. Les autres lui apparaissent comme des frères à aimer et non plus des rivaux à jalouser ou à abattre. Tout son souci deviendra peu à peu de ressembler davantage dans ses rapports avec les autres à cet homme qui fut sur terre l'incarnation de l'amour de Dieu Jésus-Christ. Voilà la force de la foi dans une vie d'homme, mais cette force va bien plus loin encore. Le chrétien, autant que tout autre, ressent en lui le grand désir du bonheur. Il le désire d'autant plus qu'il ressent en lui la paix. La paix, il la découvre même parfaitement compatible avec ces situations pénibles qu'il traverse, comme quiconque, et que nous appelons la souffrance. Car Jésus lui a appris une grande nouvelle, les béatitudes. Cette nouvelle lui ouvre une incroyable perspective, celle de l'infini, l'infini véritable, parce qu'il est l'infini des dieux. Oui, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui souffrent. Non pas que la pauvreté, la souffrance ou les larmes ne soient plus des malheurs, certes non, mais un avenir leur est ouvert et qui s'appelle le bonheur éternel de Dieu. C'est ce bonheur qui est promis à tout homme et que le chrétien a la chance de connaître déjà, un bonheur à côté duquel les souffrances du temps présent ne sont rien, comme nous le dit saint Paul apôtre. Un bonheur fait pour tous. Ne pensons pas que cette ultime perspective soit réservée aux athlètes du haut niveau. Dès maintenant, il est fait pour tous, là où chacun se trouve, dans sa famille, sa profession, son quartier. Il suffit d'oser commencer cet itinéraire dont la première étape est la recherche de Dieu en soi. Rechercher le royaume de Dieu, chercher à ce que Dieu règne en moi et non plus mes envies. Si cette recherche est sincère, tout le reste nous sera donné par surcroît. Les bonheurs de donner du bonheur. Chacun sait que faire l'expérience d'être aimé est le fondement du bonheur. Mais peut-être que la façon la plus sûre d'assurer son bonheur, c'est de se préoccuper humblement du bonheur des autres. L'Écriture sainte nous le recommande. Aimer l'autre comme soi-même, faire aux autres ce que l'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Parfois ce sera justement ne rien faire, respecter les silences ou la distance. Parfois, au contraire, ce sera agir, être présent, disponible pour écouter, tenir la main, rassurer, aider. Apporter du bonheur, c'est penser à ces 1000 petits instants évoqués, discerner ce que l'on peut faire et suivre les intuitions de son cœur sans trop se préoccuper de l'effet que cela aura. Il y a beaucoup de manières de manifester son amitié, sa présence, son intérêt pour ceux qui vivent les autres. Une carte, un coup de téléphone, quelques fleurs, simplement pour dire « je pense à vous », double bonheur d'une parole qui fait du bien à qui la reçoit et à qui la donne. Complimenter les autres sur leurs actes ou leur prise de position quand ils nous semblent justes et courageux. Reconnaître ses torts et savoir demander pardon. Remarquer les attentions que les autres ont pour nous et les en remercier. Visiter celui qui est seul, isolé, malade, âgé, prisonnier. Partager les jeux et les rires, susciter des rencontres, participer aux rassemblements organisés par d'autres. Il y a beaucoup de bonheur à donner de soi-même et à faire droit aux désirs des autres. Le bonheur d'accepter sa vie. La vie est rarement aussi belle que qu'on le voudrait. On peut se lamenter et passer son temps à se plaindre de ce qui ne va pas. On peut aussi se laisser embobiner par les sirènes de la publicité qui voudraient nous faire croire que le bonheur est dans l'avoir et la consommation. Bien manger est le début du bonheur, entend-on en ce moment sur les ondes. Certes, manger un bon produit est agréable, mais cela ne suffit pas. C'est tout ce qui se passe autour de la table qui fera de ce moment un instant de bonheur, et cela ne s'achète pas. Un ami m'a dit, si tu n'as pas ce que tu aimes, apprends à aimer ce que tu as. Faire contre mauvaise fortune bon cœur, comme dit l'adage populaire, rude leçon pleine de sagesse et de réalisme. Essayer d'avoir un regard positif sur soi et sur les autres, avoir un a priori bienveillant, mettre loin de notre cœur les griefs de toutes sortes, la rancune tenace et la jalousie. Ne pas chercher au loin ce qui est à notre portée, tellement près que nous ne les voyons pas. Apprécier d'être vivant chaque matin et être reconnaissant pour tout ce que l'on peut encore faire malgré les limites de l'âge, de la maladie, de la pauvreté, de la solitude, du tempérament qui est le nôtre. Aimer sa vie telle qu'elle, c'est peut-être bien ça le début du bonheur. Si nous ouvrions la Bible, c'est d'entrer que le bonheur est dans la Bible. À peine créée la lumière, à peine chaque œuvre de sa création apparue, et Dieu vit que cela était bon, un bonheur fondamental. Ainsi s'ouvre la Bible sur le bonheur de Dieu. Ne craignons pas de prolonger notre réflexion. Si l'auteur de ce tout premier texte de la Bible est sûr que Dieu a éprouvé du bonheur au constat de ce qu'il avait fait, c'est que lui aussi savait combien faire quelque chose de bon était pour l'homme aussi une condition de bonheur. Dès lors, la lumière, la nuit et le jour, le ciel et la terre, le soleil, la lune et les étoiles, les plantes, tous les animaux, des airs, de la mer et de la terre, tout ce que Dieu a fait est source de bonheur, du bonheur de l'humanité, parce que du bonheur même de Dieu. Et l'humanité, hommes et femmes, fait à l'image même de ce Dieu,